Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Guillaume Ménard, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade et Léa Sabourin. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Audrey Guélil.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Deuxième jour de notre série consacrée à l'économie de l'alimentation. Hier, nous avons fait un tour d'horizon des nouvelles habitudes de consommation et de leurs effets sur un marché en pleine mutation. Demain, nous nous demanderons comment nourrir une planète qui comptera 10 milliards d'habitants en 2050. Puis nous interrogerons jeudi l'influence des lobbies. Mais d'abord, intéressons-nous au modèle économique de la grande distribution. La perte de vitesse des grandes surfaces se poursuit. Le géant Casino devrait céder des dizaines de magasins en France, tout comme le groupe Auchan, tandis que Carrefour a annoncé la suppression de plus de 1000 postes. Le modèle de l'hypermarché serait-il menacé de disparition ? Comment la grande distribution peut-elle se réinventer à l'heure de la transformation numérique ? Voilà les questions qui vont nous occuper aujourd'hui. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Pour parler des menaces qui pèsent sur la grande distribution, nous accueillons aujourd'hui Laure Lavorata, professeure en marketing à l'université de Reims-Champagne-Ardennes et directrice de cet ouvrage « Marketing et développement durable du distributeur au consommateur » paru aux éditions Economica. Avec nous également Pierre-Marie Descorets, chargé d'études économiques au sein du groupe Avril, grand groupe français des huiles et protéines végétales. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera comme chaque jour des nouvelles de l'écho.
La grande puissance était surtout la publicité. Mouret en arrivait à dépenser par an 300 000 francs de catalogues, d'annonces et d'affiches. C'était d'un débordement d'étalage. Le bonheur des dames sautait aux yeux du monde entier, envahissait les murailles, les journaux, jusqu'aux rideaux des théâtres. Il professait que la femme est sans force contre la réclame, qu'elle finit fatalement par aller au bruit. Du reste, il lui tendait des pièges plus savants, il l'analysait en grand moraliste. Ainsi, il avait découvert qu'elle ne résistait pas au bon marché, qu'elle achetait sans besoin quand elle croyait conclure une affaire avantageuse. Et sur cette observation, il basait son système des 492 diminutions de prix. Il baissait progressivement les articles non vendus, préférant les vendre à perte, fidèle au principe du renouvellement rapide des marchandises. Puis, il avait pénétré plus avant encore dans le cœur de la femme. Il venait d'imaginer les rendus, un chef-d'œuvre de séduction jésuistique. « Prenez toujours, madame, vous nous rendrez l'article s'il cesse de vous plaire. » Et la femme, qui résistait, trouvait là une dernière excuse, la possibilité de revenir sur une folie. Elle prenait la conscience en règle. Maintenant, les rendus et la baisse des prix entraient dans le fonctionnement classique du nouveau commerce.
Laure Lavorata et Pierre-Marie Descorets, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on vient d'entendre un extrait du Bonheur des Dames d'Émile Zola, lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. La leçon de commerce que nous offre ici Zola, Laure Lavorata, annonce en quelque sorte le succès de la grande distribution au XXe siècle.
Alors, je trouve que c'est véritablement un extrait bien choisi, puisque c'est souvent celui dont je parle à mes étudiants, puisque j'enseigne dans le master marketing vente distribution service sur le site Campus des Comtes de Champagne à Troyes. Et je trouve que véritablement, ça met en valeur, là aussi, tout ce qu'annonce, là aussi, la grande distribution, avec l'idée aussi que, finalement, il faut déranger, il faut réinventer, il faut enchanter, là aussi, le consommateur. Et là aussi, on voit, c'est le bon marché. Ensuite, c'est évidemment dans les années 1869. On verra après, là aussi, toute l'évolution de la grande distribution. On va revenir peut-être un petit peu plus tard. Mais l'idée, c'était déjà bien ça dans la notion de précurseur, c'est on invente, on innove, et on déboussole là aussi le consommateur.
On voit que les différentes stratégies dont parle Émile Zola sont finalement des stratégies qui existent encore jusqu'au e-commerce, Pierre-Marie Descorets.
Oui, bien sûr, le rôle de la publicité, le rôle de la réclame, le rôle aussi du prix compétitif. Et je dirais ce que proposaient les grands magasins déjà au 19e siècle, c'est-à-dire réunir à un même endroit un nombre de produits. Produit d'une très grande variété.
La question du choix.
Le choix, exactement. Le choix que l'on retrouvera plus tard dans les hypermarchés, que l'on retrouve aujourd'hui sur les plateformes de vente en ligne, et c'est un modèle qui déjà trouve ses racines dans les grands magasins tels que les décrivait Zola.
Alors comment ce modèle s'est mis en place, Laure Lavorata ? Il est d'abord apparu aux États-Unis ?
Alors tout à fait. Déjà, il faut savoir, quand on parle aussi des grands magasins, il n'y avait pas d'alimentaire. Donc si on se focalise sur tout ce qui est distribution alimentaire, on s'aperçoit que le premier supermarché, c'était en 1930 aux États-Unis. Après, en France, c'est finalement après ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Et c'est l'idée aussi, c'est après la guerre, il y a tout un plan Marshall. C'est aussi l'idée, on va aller chercher aux États-Unis, voir quelles sont les nouvelles méthodes. Et c'est là qu'on va introduire en fait le libre-service. Finalement, en France, c'est en 1948 où il y a la première épicerie qui s'ouvre à Paris. C'était un peu un nouveau concept, donc issu des importés des États-Unis.
C'est vraiment l'idée de trouver tous les produits alimentaires
alors,
au même
encore,
endroit.
Justement, c'est ça, c'est ce qui est intéressant. Il y a aussi Édouard Leclerc qui ouvre en 1949 son premier libre-service. Le premier supermarché en 1957, c'est aussi à Paris. Donc là, on commence à avoir cette idée, mais c'est véritablement avec, en fait, à chaque fois, c'est l'ouverture du Carrefour en 1963, où là, on va retrouver réunis tout sous le même toit, avec l'idée aussi d'avoir des prix qui sont discount, qui sont accessibles. Et là, ça a été véritablement la révolution. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était plutôt le petit épicier du coin, etc. Donc c'est vraiment là, ces années 1963, où on peut parler du premier hypermarché et de cette vraiment révolution au niveau des hypermarchés et de la distribution alimentaire.
Et la nouveauté qui est importée des États-Unis, c'est vraiment ce principe du libre service.
Tout à fait, c'est vrai. Là aussi, c'est tout sous le même toit. Et c'est peut-être là aussi ce qu'on verra par la suite, où la difficulté actuelle du modèle économique de la grande distribution, c'est est-ce qu'on peut encore réunir tout sous le même toit ? C'est ce qu'on verra là aussi par la suite. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on était dans des structures très traditionnelles, et que là, ça a véritablement changé tout le paysage aussi de la grande distribution. Après, avec aussi, on a vu l'apparition de, alors à l'époque c'était Mammouth, etc., les Docks de France, mais véritablement toute cette évolution des hypermarchés.
Alors justement, prenons un exemple si vous le voulez bien. Le 1er octobre 1970, l'un des premiers hypermarchés de France ouvrait à Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône.
À quelques kilomètres de Marseille, au pied du rocher de Vitrolles, l'ouverture au public d'un nouveau centre commercial donne lieu depuis hier à une grande fête populaire. Les installations de vente réunies derrière une façade de 470 mètres de longueur et sur 22 000 mètres carrés de surface ont été rationnellement réparties et leur attrait décoratif souligné par celui des produits exposés. Les 4000 places de parking offertes tout autour des rayons constituent pour leur part un élément de séduction supplémentaire pour ce style de commerce. Pour marquer les premières journées d'existence de cette ville, puisqu'on y note la présence de restaurants, d'un pub, d'un bar, de stations-service auto et d'une banque, un programme de festivités a été mis sur pied et présenté sous le chapiteau de 6000 places que nous avons vu au début de ce reportage. Mais le gigantesque magasin est déjà, nous semble-t-il, un spectacle en soi, et l'on peut même y flâner sans idée bien arrêtée. Les nombreux gadgets équipant chaque rayon nous donneront chaque fois l'envie d'aller y voir de plus près.
Voilà, on entendait une archive de l'ORTF du 1er octobre 1970. Laure Lavorata, à quelle demande ce nouveau modèle de l'hypermarché répond-il alors ?
Alors ce qu'il faut aussi comprendre, c'est quand je parlais tout à l'heure d'ouverture de l'hypermarché, il n'y avait pas de galerie commerciale. Là, ce dont vous parlez dans le reportage, et c'est intéressant, c'est vers la fin aussi des années 60-70, et tout d'un coup, l'hypermarché devient la locomotive, et ça veut dire qu'on commence à flâner avec des galeries marchandes, etc. Et là aussi, on vient visiter, on vient prendre plaisir, avec aussi la possibilité surtout de se garer. Donc il faut bien aussi voir que ce modèle de la grande distribution est en lien aussi avec la consommation de masse et là aussi tous ces modes de consommation où l'après-guerre, etc., il y avait vraiment un afflux aussi de produits.
C'est un imaginaire qui est encore marqué par les pénuries de la guerre ?
Complètement. C'est aussi, là aussi, quand vous reprenez des reportages des salariés en 1963, ils disaient on vendait n'importe quoi, il suffisait de mettre quelque chose en rayon pour que cela se vende aussitôt. Ce qui n'est plus là aussi le cas maintenant, mais avec aussi l'idée, c'est qu'il y avait une espèce de frénésie d'achat et aussi la possibilité de la pléthore aussi de produits en disant ben on peut profiter des choses.
Pierre-Marie Décoré, on voit alors dans les grandes surfaces un idéal d'abondance et de modernité.
Idéal d'abondance, de modernité, oui. Le prix, le choix, le service fait au service de la société, j'allais dire, des Trente Glorieuses et de son esprit. C'est-à-dire l'avènement de la société de consommation, l'avènement de la civilisation de l'automobile avec le rôle fondamental du parking. Aussi des ménages plus nombreux, des familles plus, j'allais dire, avec plus d'enfants qu'aujourd'hui.
Et dans un contexte d'étalement urbain également,
vous avez parlé
du règne de la voiture.
On allait non seulement faire ses achats alimentaires au super ou à l'hypermarché, mais on allait également rêver. On allait découvrir les innovations de cette période des années 60-70. Et c'est peut-être ce rêve, cet enchantement de l'hypermarché qui conduisait des familles à aller s'y promener les week-ends, est en difficulté aujourd'hui.
Mais alors sur quoi repose le modèle économique de la grande distribution Leur Laborata ? Parce que les marges sont, je crois, assez faibles.
Alors effectivement, quand on regarde, même si à chaque fois les distributeurs sont souvent accusés aussi de réduire les marges des petits producteurs, déjà il faut bien remettre dans le contexte, les distributeurs ce ne sont que des intermédiaires. Alors ce ne sont pas que des intermédiaires, mais ils sont intermédiaires entre des producteurs, donc aussi des fabricants, des marques nationales et des consommateurs. Donc leur objectif c'est aussi de proposer le maximum de produits. C'est déjà aussi la difficulté. Et c'est pour ça que petit à petit, ils ont commencé aussi à développer ce qu'on a appelé les marques de distributeurs, avec l'idée aussi de se dire, eh bien, on va aussi avoir une marge plus importante. C'est vrai, quand on regarde un certain nombre de chiffres, alors peuvent être discutables, mais le résultat net avant impôt, c'est 1,2%. C'est rien du tout. C'est-à-dire que là aussi, donc...
Et alors, qu'est-ce qui fait le succès ? Comment comprendre les bénéfices importants qu'ils peuvent dégager ?
Je pense que là, justement, on n'est plus dans les bénéfices importants tels qu'on a pu les connaître à un moment donné, parce que même leur marge, c'est plutôt du 30%. Les marques nationales, ça peut être carrément 5 fois plus. Ce qui a fait, en fait, à un moment donné le succès dans ces années 70, c'est, on l'a dit aussi, le fait qu'il y avait une demande au niveau de la consommation, le fait aussi d'acheter tous les produits, d'avoir aussi l'idée de pléthore et d'abondance. Ça, c'est à peu près jusque dans les années, on va dire 80-90. Et quand on suit les modèles de consommation, on s'aperçoit que maintenant, on est aussi, depuis les années, on va dire 2000, l'apparition de l'éthique, de la consommation aussi responsable, avec l'idée de développer de nouveaux modes de consommation. Donc, ce qui a fait, en fait, le succès, c'est qu'il y avait une attente, il y avait aussi un besoin. Et c'est vrai que c'est la sortie aussi du dimanche ou du samedi, parce qu'on allait au cinéma, on faisait ses courses, on achetait un certain nombre de choses. Donc la locomotive, elle marchait. Comme tous ces centres commerciaux, on a vu là aussi le développement important de ces centres commerciaux. Donc c'était, vous l'avez dit très bien tout à l'heure, c'est le prix, l'abondance, le choix et le renouvellement. C'est pour ça que c'est intéressant dans votre extrait du Bon Marché au Bonheur des Dames, c'est ce renouvellement perpétuel. C'est ce qu'on fait aussi référence, ce qu'on appelle les achats d'impulsion. C'est qu'à un moment donné, on se met en magasin, on a sa liste, mais tiens, il y a de nouveaux produits, on va les acheter.
Sauf que la machine a commencé à se gripper, c'est ce que je disais en introduction. Est-ce que vous parleriez l'un et l'autre d'une crise de la grande distribution en France aujourd'hui ? Et si oui, pour quelles raisons ? Est-ce que c'est d'abord à cause de l'épuisement du modèle Leur Laborata ?
Alors, je pense là aussi, donc mon collègue va pouvoir plus parler de e-commerce. En fait, je pense que là aussi, dans les articles que j'ai pu écrire, je parle de mutations sociétales et technologiques, mais on en est là. C'est-à-dire que les mutations technologiques, le modèle aussi ne reste plus identique. C'est-à-dire qu'aussi l'apparition d'Internet et là aussi de tout ce qui est e-commerce fait qu'à un moment donné, ça modifie non seulement le paysage aussi de la distribution, mais ça a un impact aussi sur la consommation. C'est-à-dire que là aussi, le consommateur avec la recherche de nouvelles valeurs, de quête de sens, mais aussi il utilise ces nouvelles technologies. Et en utilisant de plus en plus ces technologies, ça veut dire que là aussi, le modèle de la distribution doit s'adapter. Mais quelque part, c'est aussi le principe du marketing mais des entreprises, c'est s'adapter à la fois à la demande, c'est-à-dire les consommateurs, mais également aux concurrents, donc à l'offre, et aussi s'adapter à des nouveaux modèles qui apparaissent, qui n'existaient pas dans les années précédentes.
Avant de parler du e-commerce, Leur Laborata, est-ce que vous diriez que c'est lié, cette crise de la grande distribution est liée au fait qu'il n'y a plus de parts de marché à conquérir, que la consommation progresse lentement désormais, ou peut-être au fait que les grands distributeurs ont été trop préoccupés par leur expansion internationale, qu'ils n'ont pas assez investi au niveau national ?
Non, je pense que là aussi, d'abord, à chaque fois, quand je vais dans des conférences étrangères, on voit bien que le paysage français au niveau de la distribution est quand même complètement unique. D'accord, c'est-à-dire qu'on a des grands groupes, on a Carrefour, on a Leclerc, Intermarché, qui vont aussi à l'international. Et ça veut dire que, par exemple, vous allez au Portugal ou en Espagne, vous allez trouver des Carrefour, etc. Eux n'ont pas ce même modèle de la distribution. Donc, ils ont beaucoup internationalisé parce qu'il y avait là aussi une demande. Donc là, je pense que ce n'est pas en cause le fait qu'ils se soient internationalisés, parce qu'il y avait véritablement des attentes, mais le fait aussi que le modèle en France a changé. Et puis, il faut pas oublier aussi les discounters. C'est-à-dire qu'il y a Aldi, il y a surtout Lidl. Et Lidl, ce qui est intéressant, intéressant, c'est qu'il y a 15 ans, on parlait du hard discount, et puis petit à petit, ils ont évolué vers ce qu'on appelle le soft discount, c'est-à-dire un peu moins des prix un peu moins forts, et surtout avec l'idée, eux-mêmes développent aussi leur marque de distributeur et proposent, on le voit bien, là aussi différents produits. C'est-à-dire qu'aussi cette concurrence, elle s'est faite aussi en interne. Donc c'est vrai, quand on voit les parts de marché, c'est Leclerc qui est en première place derrière Carrefour, mais à chaque fois, c'est une fois ça peut être Carrefour ou Leclerc. Et il y a surtout ce qui est intéressant, peut-être pour répondre aussi à votre question, c'est qu'on voit le modèle des distributeurs indépendants et les distributeurs intégrés. Les distributeurs indépendants, c'est les groupements finalement d'indépendants, de personnes qui ont leur propre hypermarché. Ça, c'est le modèle Leclerc, Système U, Intermarché. Et quelque part, on s'aperçoit que ce modèle a l'air de mieux s'en sortir face à la crise, contrairement peut-être au modèle de la distribution des distributeurs intégrés.
Comme donc, Carrefour, là aussi, Casino, ça, Auchan.
Exactement. Qui aussi, eh bien, là, doivent faire face à une expansion qui est aussi complètement différente. Peut-être que les indépendants savent peut-être être plus réactifs, peut-être aussi plus mobiles. C'est peut-être aussi une des forces.
Il y a d'autres aspects qui sont importants. Vous en avez parlé, Laure Laborata, les marques de distributeurs qui ont été développées assez tôt, je crois, par les industriels, par les distributeurs, pardon, pour concurrencer les industriels. Et ces marques de distributeurs ont joué un rôle essentiel dans le modèle de rentabilité des supermarchés. Alors la question qui se pose peut-être aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut développer encore davantage ces marques de distributeurs et est-ce que c'est possible?
Alors ce qui est intéressant justement, c'est que 50% des lancements actuels des marques de distributeurs sont des marques de distributeurs bio. Donc là aussi, et ça a un impact, c'est à peu près 10% par an de croissance. Donc ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que là aussi les distributeurs ont quand même su s'adapter. C'est-à-dire qu'au départ, leur marque de distributeur, les premiers finalement produits, c'est ce qu'on appelait, c'était les produits libres de Carrefour dans les années à peu près 76. Et puis donc c'était des produits qui étaient blancs, etc., sans image. Mais maintenant on assiste à un développement là aussi de gamme au niveau des marques de distributeurs, avec des marques premium, avec des marques bio, donc des marques de distributeurs, des marques de distributeurs aussi équitables, c'est-à-dire que là aussi avec l'idée de proposer une offre qui soit intéressante pour le consommateur. Et d'ailleurs, le consommateur ne s'y trompe pas parce que pratiquement un produit sur deux dans le supermarché, dans leur caddie, ce sont des marques de distributeurs. Alors, il y a aussi les top budget, les prix vraiment accessibles.
Ça a donc permis la rentabilité des supermarchés. Est-ce que ça peut encore les aider à sortir de ce mauvais pas dans lequel ils se trouvent aujourd'hui?
En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que les marques de distributeurs, pour moi, c'est la marque de la stratégie des distributeurs d'aller dans une direction ou une autre. Donc, bien sûr, là, véritablement, d'ailleurs, on voit Amazon aussi, enfin, vous en parlerez sans doute, ils ont également leur marque de distributeurs. Donc, c'est véritablement un outil aussi pour générer de la marque, sachant que les consommateurs aussi sont intéressés par ces marques de distributeurs. Et peut-être la difficulté, c'est pas tellement pour les marques de distributeurs, c'est peut-être pour les marques nationales aussi, qui doivent véritablement innover, apporter quelque chose de nouveau pour faire la différence. Parce que là, maintenant, on est véritablement sur des qualités qui sont pratiquement identiques.
Une dernière question, Laure Laborata, avant de me tourner vers Pierre-Marie Décoré. Les distributeurs ont également été fragilisés par la guerre des prix à laquelle ils se sont livrés. Guerre des prix qui a également coûté cher aux fournisseurs. Et c'est pour cela que la loi alimentation prévoit aujourd'hui de limiter les promotions.
Alors, il y a toujours aussi l'idée dans les lois, les réglementations, de faire attention justement entre ce qui est distributeur, relation distributeur et producteur. Il faut faire en fait la distinction, parce que le consommateur, souvent, il parle producteur, il pense petit producteur, de lait, etc. Alors qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par les distributeurs pour instaurer là aussi des partenariats avec les petits producteurs. Donc, la réglementation va aussi permettre d'éviter la revente à perte et aussi de permettre aux petits producteurs d'avoir un prix qui soit là aussi garanti.
Mais on ne sait pas vraiment encore si cette mesure va bénéficier davantage aux distributeurs, aux industriels ou aux producteurs agricoles, justement.
En fait, le problème aussi qui se pose, c'est que cette loi alimentation qui est rentrée en vigueur le 1er janvier 2019 a pour objectif surtout de réduire ce qu'on appelle les ventes par lot, c'est-à-dire trois produits, etc., pour justement éviter cette guerre des prix. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans la réalité, à un moment donné, les distributeurs ont augmenté quand même les prix justement sur ces produits denrées alimentaires. C'est vrai que sur la guerre des prix, Serge Papin, qui était à l'époque là aussi le président du groupement Système U, alertait tout le monde sur aussi le fait de dire « attention, on ne peut pas se battre sur le prix ». Et pourtant, et c'est ce qu'on verra sans doute par la suite, le consommateur, il est à la recherche aussi de prix bas. Et souvent, ce qui fait aussi le combat du Leclerc, c'est à un moment donné, c'est « je combats pour les consommateurs et donc pour le prix ». Donc c'est sûr que c'est une information qui est importante, mais c'est pas ce qui explique actuellement ce qu'on peut appeler la crise ou la modification du modèle de la grande distribution.
On verra que le comportement des consommateurs n'est pas toujours aussi rationnel qu'on voudrait le croire et que cela complique les anticipations pour les distributeurs, mais aussi pour les producteurs. Je me tourne maintenant vers vous, Pierre-Marie Décoré. Dans quelle mesure, selon vous, le e-commerce représente-t-il une menace sérieuse pour la grande distribution? Et peut-être d'abord, comment expliquer aujourd'hui ce succès du e-commerce?
Alors, comment l'expliquer? La révolution technologique, d'abord. Je rappellerai volontiers qu'en 20 ans, plus de la moitié de la population mondiale s'est connectée à Internet. Plus de 4 milliards d'habitants. En 10 ans, un tiers de la population mondiale s'est dotée d'un smartphone.
Donc cela correspond avant tout aux attentes des consommateurs, c'est
ce
que vous voulez dire.
Ça correspond avant tout à de nouveaux usages commerciaux d'outils technologiques. Aujourd'hui, le circuit e-commerce, c'est un circuit de distribution, il faut le rappeler, minoritaire, et très minoritaire dans l'alimentation. Minoritaire, parce qu'on estime qu'il représenterait à peu près 10% des ventes en France en 2019.
Oui, minoritaire dans l'alimentaire, vous avez raison de le souligner, par rapport à d'autres produits.
6%. Et qu'est-ce qu'on appelle le e-commerce alimentaire? Il revêt deux formes, la livraison à domicile, et c'est assez marginal, mais surtout, le drive. Le drive. Donc,
Vous nous expliquer peut-être le drive et pas comment est-ce qu'il a été lancé, Pierre-Marie Décoré.
Alors, le drive est une spécificité française. C'est un véritable succès qui a été lancé par les enseignes traditionnelles de grande distribution en France et qui consiste à commander en ligne sur Internet et à aller récupérer sa commande en magasin. Il faut conduire, donc ça, vous conduisez votre voiture jusqu'au magasin ou maintenant vous pouvez aussi dans certaines villes aller chercher à pied votre commande. Donc voilà ce qu'est le drive. Le drive, c'est l'essentiel du e-commerce alimentaire, c'est à peu près 80% du e-commerce alimentaire en France et c'est un modèle qui commence à essaimer dans d'autres pays.
Et comment explique-t-on, Pierre-Marie Décoré, que cela marche aussi bien en France par rapport à d'autres pays européens qui auraient pu développer davantage ce modèle du drive?
C'est sans doute un avantage, j'allais dire, au premier entrant, puisque la France a été l'un des pionniers voilà, à développer le drive. Je dirais également que d'autres pays ont davantage investi la livraison à domicile. Ça correspond bien aussi aux attentes d'une clientèle plus familiale, d'une clientèle notamment sur les produits de consommation non alimentaire. Et c'est ce qui explique, à mon sens, pourquoi le drive connaît un tel succès dans notre pays.
Laure Lavoratta, sur ce succès.
Pour compléter, je pense là aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que par exemple, on a 6 groupes vraiment importants, Carrefour, Casino, Auchan, Leclerc, Intermarché, alors que par exemple, en Grande-Bretagne, et Système U, et d'autres aussi, mais voilà, c'est vraiment les six principaux. Alors que vous allez en Angleterre, vous allez avoir surtout Tesco, il y avait un peu marqué Spencer, etc. Donc je pense aussi qu'il y a tout le fait qu'on ait un essaimage aussi très important aussi en France.
Et vous diriez, Laure Lavorata, que le e-commerce s'est développé pour répondre aux attentes des consommateurs. Et peut-être que ce qui l'illustre le mieux, c'est la bataille que se mène aujourd'hui Walmart, qui est le leader de la distribution aux États-Unis, et Amazon.
Alors, je pense que déjà, ce qui est important de revenir, c'est que le drive n'est qu'un aspect, finalement, on va dire, là aussi, du e-commerce. Le drive, on fait sa liste, on va rechercher, etc. Donc, c'est vrai que quand on calcule les chiffres, ça a augmenté de 8,8% en 2018, alors que parallèlement, les dépenses en hypermarché, c'était moins 0,4%. Donc, c'est une manière d'aller, là aussi, toucher au niveau du consommateur. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Amazon, il est présent aussi partout. C'est-à-dire Amazon, il concurrence Carrefour, il concurrence nos distributeurs. Bien sûr, c'est aussi avec Walmart, mais c'est pas simplement aussi américain. C'est peut-être aussi le grand changement. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous parliez de l'internationalisation. Avant, on allait, on se déplaçait, on mettait des points de vente, là aussi, réels. Maintenant, finalement, Amazon, tout le monde aussi commande par Amazon. Ce qui veut dire qu'en fait, le consommateur, il va être aussi, il a différents moyens. Il veut aussi avoir des produits de différentes manières. Il faut savoir, par exemple, là, actuellement, il fréquente 8 magasins. Il y a 15 ans, c'était 3 magasins. Donc là aussi, ce choix, il se fait aussi à travers le e-commerce.
Et alors, quels sont les atouts de ces plateformes de commerce alimentaire? Par exemple, Amazon, le premier d'entre eux. Quels sont ces atouts, selon vous, Pierre-Marie Décoré?
Le choix. D'abord, Amazon se propose d'être la boutique où l'on vend de tout. Vous trouvez 250 millions de références sur sa plateforme. C'est davantage encore quand on regarde les e-commerçants chinois. Je me suis arrêté de compter à 1 milliard de références contre quelques dizaines de milliers tout au plus dans un hypermarché. Vous avez également des prix qui peuvent être assez avantageux. Et ce qui est intéressant, souligner à mon sens, c'est qu'Amazon n'est pas seulement un acteur de la distribution et donc son modèle économique repose aussi sur des activités à forte valeur ajoutée, très rentables, comme le cloud, c'est les services informatiques, les services de paiement, l'audiovisuel. Je rappelle volontiers que Amazon, c'est 10 fois le budget de France Télévisions, Amazon Audiovisuel. Et toutes ces activités à plus forte valeur ajoutée lui permettent d'abaisser ses marges sur le retail, sur la vente de produits sur sa plateforme.
Et justement, c'est les capacités logistiques d'Amazon et sa capacité à innover qui font d'elle un acteur de premier plan.
Il y a le modèle économique, mais il y a aussi le modèle d'innovation. Amazon est le premier investisseur en recherche et développement à l'échelle mondiale devant Google. Et ces innovations sont très nombreuses. Elles concernent l'optimisation de la logistique. On voit des robots arriver dans les entrepôts, on voit des magasins devenir automatisés, sans caisse, même si Amazon accuse encore un peu de retard dans ce domaine par rapport aux Chinois. La livraison par drone, ce n'est pas un projet futuriste.
Ça existe déjà pour des très petites distances aux États-Unis.
Quelques kilos, mais les Chinois sont sur le livre par drone, en tout cas JD.com, le concurrent d'Alibaba, livre des colis de plusieurs kilos sur des dizaines de kilomètres en Chine. Et ils ont un programme qui devrait permettre aux drones, si tant est que la réglementation aérienne le permette, de constamment étendre son périmètre.
Pierre-Marie Décoré, vous parlez des plateformes chinoises de vente en ligne. Et justement, la Chine a développé un modèle original qui cherche en quelque sorte à faire du commerce en ligne un véritable hobby. C'est ce qu'on appelle le New Retail. Écoutons les explications d'Emmanuel Vivier, le cofondateur du think tank Hub Institute.
Le New Retail, c'est intégrer le online, le offline, la logistique et la data au travers d'une seule chaîne de valeur. C'est plus parler on ou off, c'est de se dire finalement je fais du commerce. Il y a plein de façons de le faire, dans un sens, dans l'autre, du on vers le off, du off vers le on. Et finalement, ce qui compte, c'est les gens. C'est partir et c'est pas dire nous on fait ça ou nous on vend comme ça. C'est finalement les gens, qu'est-ce qu'ils font? Comment dans leur parcours client on peut les toucher à tout moment et de toute manière. Et donc finalement c'est se dire que les Chinois appliquent au offline les mêmes attentes qu'au online. Et donc je peux très bien dans un magasin commander sur mon mobile, me faire livrer chez moi et inversement.
Voilà, le New Retail, ce qu'on appelle le New Retail, a fait le succès du leader chinois du commerce Alibaba, du e-commerce Alibaba, notamment grâce à ses supermarchés Emma Fresh, Pierre-Marie Décoré.
Oui, alors je rappellerai d'abord que Alibaba, c'est 600 millions de consommateurs, quand Amazon compte 300 millions de clients, même si son chiffre d'affaires est bien inférieur aux géants américains. Tous les géants du e-commerce et tous les acteurs de la distribution aujourd'hui partagent cette ambition phygitale, c'est-à-dire transformer la distribution pour intégrer le canal Internet et le canal physique.
Phygital, donc un néologisme de physique et de digital.
Exactement, exactement. Ce qui revient à utiliser les outils digitaux dans les magasins, dans les entrepôts, et on le voit avec Amazon notamment, mais aussi avec les acteurs plus traditionnels de la grande distribution. Et à l'inverse, il s'agit pour les acteurs du e-commerce d'investir la distribution physique. Amazon a racheté une chaîne de supermarchés Whole Foods en 2017 pour la bagatelle de 13 milliards de dollars. C'était son premier investissement et son premier investissement dans la distribution physique. Et aujourd'hui, Amazon ouvre des magasins. Vous mentionnez Emma Fresh, ce qui est un modèle de magasin développé par Alibaba en Chine et qui intègre le online et le offline, donc le physique et le virtuel dans le magasin, où vous pouvez acheter avec votre smartphone, vous pouvez choisir votre produit sur un écran, vous pouvez éventuellement avoir un petit robot qui vous suit avec un panier à la demande, plus besoin de pousser son caddie. Et tous ces acteurs sont en train d'apporter des innovations considérables à tous les échelons de la distribution, de l'entrepôt jusqu'à la livraison.
Et ça marche très très bien. Je disais que Emma Fresh réalisait des ventes 3 à 5 fois supérieures à celles des supermarchés traditionnels de la même taille.
Bien sûr, mais parce que on revient sur ce que l'on disait tout à l'heure. Là où l'hypermarché ne fait plus rêver Emma Fresh ou les magasins Figito font rêver.
Il y a cette idée d'une expérience client particulière qu'on offre.
Et surtout, il y a une expérience client continue, intégrée, où que vous soyez, quel que soit le moment où vous vouliez acheter quelque chose, vous pouvez le faire avec les mêmes réductions, cartes de fidélité, le même choix que vous achetiez par le canal internet ou par le canal physique. Et c'est ce service-là qui est au cœur de la révolution figitale.
Laure Lavorata.
Donc je voulais réagir en fait justement sur ce que vous appelez ou ce qu'on a entendu sur le New Retail. En fait, on est dans ce qu'on appelle une stratégie là omnicanal, c'est-à-dire qu'avant on était, il y avait des canaux différents, c'est la stratégie multicanaux, il fallait être présent partout. Maintenant, il y a une réflexion, une stratégie globale en disant finalement toucher le consommateur, c'est j'ai aussi un site internet, donc il y a Casino, il y a Cdiscount, mais il faut savoir qu'à un moment donné, ils gagnent pas beaucoup d'argent, ça fait déjà une vingtaine d'années qu'ils sont là, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ensuite, c'est sur le magasin aussi je peux y aller. Il faut savoir quand même que la moitié des consommateurs estiment qu'en fait, c'est complémentaire, physique et tout. Et il y a aussi, n'oublions pas aussi qu'Amazon s'est lancé dans l'alimentaire, puisqu'on est aussi sur le sujet de l'alimentation, en 2015. Donc là aussi, ça a été complètement difficile pour les distributeurs, sachant que là, ils sont en train de réfléchir, vous l'avez tout à fait indiqué tout à l'heure, le fait de dire, bien, il faut aussi maintenant peut-être implanter des magasins aussi réels et physiques. Donc il y a aussi cette réflexion, comment je fais par exemple pour des produits frais, comment je peux faire. Donc Amazon réfléchit, mais il y a aussi l'idée de la notion de livraison. Et c'est aussi là où c'est important, c'est-à-dire le consommateur à minuit, c'est à un moment donné, j'ai envie d'acheter ci, etc., comment je fais ou à qui je m'adresse. Et donc l'enjeu aussi pour les distributeurs, c'est de se dire, bah, comment je vais toucher ce consommateur.
J'ai mon site internet. Livrer des produits frais, des produits surgelés, ça paraît compliqué.
Livrer un certain nombre de choses. Et là aussi, c'est comme ça que les distributeurs, par exemple Franprix aussi, tels que Monoprix, c'est par exemple la livraison, c'est à pied aussi, parce qu'il y a aussi la notion, on verra peut-être tout à l'heure, sur la notion écologique ou l'impact environnemental, mais c'est aussi de se dire, je réfléchis en même temps, je veux que mes produits me soient livrés, et donc maintenant, non seulement il y avait aussi tout ce qui était électrique, mais maintenant c'est livraison à pied dans un rayon d'eux. Donc c'est ça aussi, quand vous disiez ce qui a fait la grande force de tout ce qui est e-commerce, c'est à un moment donné, je peux aussi me connecter, et puis il y a aussi tout ce qu'on appelle le M-commerce, le commerce par le mobile aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on utilise son téléphone, on se connecte, etc.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini. I know that someday I'll lose control inside the supermarket. I kill them all, the love songs on the radio. Looking at junk food, I start to cry. I've got the anorexic blues, but I don't know why to buy. Inside this house with the stone. We used to turn silver into gold. We used to turn the water into wine. Don't you try to beat me just a little bit. Why all I eat comes out as vomit and turns into a shame.
Strike at the supermarket de Jack the Ripper sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Nous poursuivons notre discussion sur la crise de la grande distribution en compagnie de Laure Lavorata et de Pierre-Marie Décoré. Alors nous avons vu que les marges pouvaient être assez faibles dans le marché de l'alimentation et que les achats alimentaires en ligne étaient encore minoritaires. Alors comment comprendre justement qu'un géant du numérique comme Amazon s'intéresse à ce marché, Pierre-Marie Décoré ?
Je dirais qu'il y a d'abord les raisons traditionnel qui pousse tout distributeur à s'intéresser à l'alimentation. C'est un marché important, c'est un marché récurrent, puisque vous faites vos achats au moins une fois par semaine. C'est un marché d'appel qui vous permet de générer du trafic pour vendre d'autres produits. Mais il y a peut-être des motivations plus, j'allais dire, qui ont trait au e-commerce et qui ont trait aux nouvelles attentes du consommateur. Et je résumerai en deux mots, santé, données. Santé, parce que le consommateur attend une alimentation plus responsable. Il est parfaitement au courant du lien entre son alimentation d'aujourd'hui et sa santé d'aujourd'hui, voire de demain.
Et en quoi le e-commerce favoriserait ces questions sanitaires ?
C'est pas une question de favoriser la sécurité sanitaire des aliments, qui est très bonne, que ce soit sur le e-commerce ou dans la grande distribution traditionnelle. C'est plutôt que la santé est un axe directeur des GAFAM, des entreprises du numérique. Amazon en fait partie. On connaît les projets de Google sur la santé, sur la recherche médicale, voire c'est le projet transhumaniste. Et Amazon participe également de cet intérêt des GAFAM pour la santé. Mais ce qui me paraît le plus important, et c'est pour ça, à mon sens, que ces géants du e-commerce investissent l'alimentaire, c'est la donnée. Pourquoi ? Parce que nos tickets de caisse nous révèlent. Ils révèlent ce que nous consommons, ce que nous aimons, les produits, des marques. Ils révèlent pourquoi nous consommons, parce que notre foyer est plus ou moins grand, parce que nous avons telle ou telle conviction religieuse qui nous conduit à aimer tel ou type ou ne pas aimer tel ou tel de produit. C'est donc...
Donc les acteurs du numérique vont récupérer ces données Bien et sûr. Les traiter parce que c'est la base de leur métier.
C'est leur cœur de métier. Et vous avez rappelé, ce n'est pas les marges qui les intéressent dans l'alimentation. Ce n'est pas les marges parce qu'elles sont très faibles, somme toute, dans ce secteur. En revanche, ils collectent énormément de données et ils peuvent les croiser avec d'autres données sur qui ont trait au cloud, aux services de paiement, à toutes leurs autres activités annexes pour mieux cerner le consommateur et donc lui faire des recommandations, des suggestions toujours plus précises pour avoir un service, une expérience client qui soit optimisée. Et ces données, elles peuvent également être vendues à des acteurs de l'agroalimentaire, mais enfin dans d'autres secteurs d'activité, parce que les entreprises sont toujours très avides de savoir qui consomme et pourquoi, qui consomme leurs produits
et
pourquoi.
Et par exemple, c'est déjà arrivé qu'un producteur arrive à fabriquer un produit spécifique sur la base de recommandations fournies par exemple par Alibaba.
Il y a un très bel exemple, en Chine, Mars, donc vous connaissez les barres chocolatées, Mars a été contacté par Alibaba et Alibaba a remarqué que sur sa plateforme, les consommateurs de Mars étaient de grands consommateurs de poivrons du Sichuan. Et donc, la plateforme a donc suggéré à Mars de combiner ces deux produits. Le produit, la barre chocolatée au poivron du Sichuan a été lancée en Chine et c'est un vrai succès. C'est un exemple d'utilisation de données marketing du e-commerce dans l'agroalimentaire.
Et en même temps, on peut se dire que il y a encore un certain nombre d'obstacles au développement du e-commerce. Laure Lavorata parlait de la question de la livraison qui est encore ouverte. Puis il y a peut-être aussi un obstacle psychologique. Tous les consommateurs ne sont pas forcément prêts à acheter des produits frais, par exemple, qu'il n'aurait vu qu'en ligne.
Oui, il y a trois grandes barrières. Je vais commencer par celle que l'on a évoquée tout à l'heure. C'est un environnement très concurrentiel, avec des acteurs très bien implantés. Donc, les marges sont faibles et il est difficile d'entrer sur ce marché, d'une part. D'autre part, il y a une barrière psychologique à l'achat d'alimentation en ligne, en particulier pour certains produits. Est-ce que vous avez envie d'acheter vos produits frais en ligne ? Non, on aime le contact avec le produit, on aime le sentir, on aime le toucher. C'est notamment le cas pour des produits, très sensibles, comme l'alimentation infantile. Vous voyez, on aime voir le produit plutôt que l'acheter en ligne pour des raisons de sécurité sanitaire. Est-ce qu'on fait confiance au préparateur de commande pour sélectionner notre alimentation ? Un distributeur qui communique sur si vous achetez votre baguette sur le travail, vous pouvez dire est-ce que vous voulez votre baguette cuite ou pas. Troisième grande barrière au développement du e-commerce et à ses résultats, c'est la logistique, le coût, notamment le coût du dernier kilomètre. Pourquoi ? Parce que la livraison de produits alimentaires coûte cher et le problème c'est le rapport poids-prix-volume. L'alimentation pèse. Ces volumes sont importants, un pack d'eau, ça ne tient pas dans un petit colis. Et le prix de l'alimentation est relativement faible par rapport à d'autres produits, notamment l'électronique ou des biens culturels. Je prends toujours le même exemple, mais livrer un pack d'eau au sixième étage d'un immeuble parisien sans ascenseur, c'est assez peu rentable.
C'est bien pour ça que le drive marche si bien. C'est un modèle qui a peut-être plus d'avenir que le modèle de la livraison, de ce qu'on achète en ligne.
Oui, ça explique en partie le succès du drive. Mais je dirais que tout l'enjeu pour les e-commerçants, mais que ce soit qu'ils soient des plateformes comme Amazon ou la grande distribution, parce que rappelons quand même, la grande distribution est l'acteur principal du e-commerce alimentaire en France, notamment Leclerc. Leur grand défi, c'est d'optimiser ses coûts logistiques, soit par des innovations, la livraison par drone, la serrure connectée.
La serrure connectée, alors de quoi s'agit-il ?
La serrure connectée, c'est un modèle qui a été développé par Amazon et qui consiste à permettre à une petite liste de persona grata de rentrer chez vous, par exemple votre personnel de maison ou votre belle-mère, votre livreur, pour livrer vos achats directement dans votre frigo.
Voilà. Et ça, c'est déjà mis en place.
C'est déjà commercialisé aux États-Unis. Vous pouvez le faire également dans votre coffre. Donc, d'un côté, on optimise la livraison pour réduire les coûts, parce que ce sont ces coûts qui sont prohibitifs pour les acteurs du e-commerce alimentaire. Soit, eh bien, on demande aux clients de le faire. C'est le principe du drive, qu'il soit piéton ou en voiture. Vous allez chercher vos courses, vous faites le travail de livraison en fait à notre place pour réduire les coûts et pour que ce soit assez rentable. Sinon, on fixe un minimum d'achat avant de proposer une livraison gratuite. Voilà, il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées pour essayer de rentabiliser un peu ce e-commerce alimentaire, et c'est très compliqué. Regardez Amazon qui vient d'investir dans Deliveroo. Cette logistique du dernier kilomètre, c'est absolument clé. Pour pénétrer davantage le marché alimentaire.
Vous parliez de Leclerc, Pierre-Marie Décoré. Justement, écoutons son président, Michel-Édouard Leclerc.
Amazon, c'est cette révolution d'une technologie capable d'avoir un service extraordinaire. En même temps, vous voyez, s'il suffisait d'être quelqu'un qui maîtrise la technologie, il arriverait à percer sur l'alimentaire comme ça aussi. On voit que non. Il y a un service Amazon Premium à Paris, dans les grands milieux urbains, à fort pouvoir d'achat, mais ils ont besoin des magasins. Et nous, ça nous arrange aussi, parce que Amazon, ça va devenir mon premier concurrent. Amazon, ça va être le premier concurrent de Carrefour. Il y aura Leclerc, il y aura Leclerc.com, mais il y aura Amazon. C'est un changement de dimension dans la concurrence. Nous, on part du magasin physique, on parle de l'épicerie créée par mes parents, etc. Et on va vers Internet. En 2020, on fera 10% de notre chiffre d'affaires à partir du net. Et eux font le chemin inverse. Ils viennent du numérique, mais ils viennent vers le magasin physique.
Voilà, c'est un extrait d'une interview de Michel-Édouard Leclerc chez nos confrères de France Inter le 3 janvier 2011 et qui incarne bien ce que vous disiez tout à l'heure, Pierre-Marie Décoré, sur ce figital, ce mélange du digital et du magasin physique. On voit qu'il y a vraiment une prise de conscience d'investir dans le e-commerce de la part des distributeurs traditionnels.
Oui, ils le font tous azimuts. Les distributeurs traditionnels multiplient les plans de digitalisation, de transformation digitale. Regardez le plan Carrefour 2022 avec des objectifs ambitieux en termes de e-commerce. Walmart fait la même chose. Et la chance peut-être d'un Walmart par rapport aux distributeurs français est d'avoir eu une concurrence assez précoce d'Amazon qui lui a permis d'anticiper cette nécessité figitale de transformation de ses activités.
Une transformation qui, je le précise quand même, risque de se faire au détriment d'un certain nombre de salariés, puisque, en l'occurrence, Leclerc a annoncé 3000 départs, parmi lesquels il y aurait à peu près 1500 suppressions de postes. Il faut quand même le noter.
Bien sûr, il n'y a pas seulement, et c'est triste pour l'emploi local, il n'y a pas seulement une transformation digitale par l'innovation. Il y a aussi malheureusement une transformation plus large de ces acteurs de la grande distribution par une restructuration du parc avec moins d'hyper, ou en tout cas des hyper transformés, plus d'accent mis sur les magasins de proximité ou les enseignes spécialisées de bio ou de local, etc., qu'on va peut-être aborder tout de suite.
On parlait des attentes des consommateurs qui évoluent. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la grande distribution est confrontée à de nouvelles exigences de la part des clients. Vous diriez, Laure Lavorata, qu'il y a une défiance croissante envers les grandes surfaces et ce qu'elles incarnent en termes de consommation, d'hyper-consommation.
Alors, la défiance, elle se fait des consommateurs, elle se fait d'abord par rapport à tout. Vous avez vu au niveau de la politique, au niveau d'un certain nombre de choses. Donc ça, c'est déjà effectivement une réalité avec, on ne croit plus dans ce qui peut être dit aussi, puisque le consommateur est aussi plus informé, il va chercher l'information. Parfois de la mauvaise information, mais il va la chercher. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en fait, quand on a parlé des mutations technologiques, et par exemple des restructurations, c'est qu'il y a un moment aussi, ce qui est, Leclerc a mis l'accent sur la notion de service. Et je crois là aussi, c'est ça qui est fondamental. Dans la notion de livraison, etc., ce que le consommateur attend, c'est un service. Et finalement, il y a un mix entre le e-commerce, où c'est les consommateurs vont aussi regarder des choses, s'informer, ensuite ils vont en magasin, ils vont tester, ils reviennent ensuite. Donc ça aussi, c'est tous les enjeux. Mais quand on parle de restructuration, regardez déjà ce qu'avaient fait les caisses automatiques, en disant ça va supprimer la caissière, etc. Donc c'était aussi à l'époque dramatique. Pourtant, en fin de compte, c'est aussi la notion de facilité. Donc la notion aussi de défiance, c'est aussi le fait de dire, ben, est-ce que je crois en ce qu'on me dit ? Je sais que j'ai mené aussi des études, par exemple, sur la perception au niveau en matière de développement durable. Et même s'il y a des réalités, il y a des choses qui sont faites par les distributeurs, les consommateurs disent, j'y crois pas, c'est à la mode, etc. J'ai du mal à croire ça.
Oui, par exemple, sur les circuits courts, le fait que la concurrence des circuits courts est réelle pour les grands distributeurs. Et ils ont tenté de riposter Carrefour et Casino, pour ne pas les nommer, par exemple, et essayent de promouvoir des produits locaux. Mais la question, c'est, est-ce que cela convainc véritablement les clients ?
En fait, ce qu'on voit de plus en plus de sens chez les distributeurs, la notion de produits locaux, c'est aussi la notion de made in, c'est-à-dire qu'on est passé du commerce nord-sud, où c'était assurer un juste prix aux producteurs du sud, à ce qu'on appelle le commerce nord-nord, c'est-à-dire les producteurs aussi locaux. Donc le made in, là aussi, l'accent est important, et donc c'est quand même, les campagnes sont importantes, et c'est une attente aussi des consommateurs. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en fin de compte, quand je vous disais tout à l'heure, les consommateurs fréquentent 8 supermarchés, marché. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'ils font différemment selon ce qu'ils veulent acheter. C'est-à-dire, je vais chez un Lidl pour les prix discount, je vais chez une grande surface pour un certain type de produit.
Et éventuellement dans un magasin spécialisé bio.
Je vais dans le bio, par exemple Biocoop, où maintenant il y a Natureo aussi, c'est beau, c'est bio, c'est bon. Et puis aussi l'idée, je vais chez la MAP et je vais aussi au marché. Donc en fait, ils sont aussi multiformes. Donc cette notion, c'est aussi de se dire, et tout à l'heure vous l'avez souligné sur la notion de produits frais, l'alimentation, déjà les Vichereau disaient, je suis aussi ce que je mange. Donc l'ingérence de produits alimentaires n'est plus neutre. Et hier, donc, vous faisiez dans l'émission sur la notion d'alimentation, mais c'est aussi important. Et finalement, l'émergence des produits bio, c'est ça aussi en disant, mais il y a une question de critères de qualité. Donc là aussi, les distributeurs ont bien su s'adapter et ont même maintenant commencé à lancer leur propre chaîne aussi de supermarchés bio, avec l'idée aussi, c'est aussi un marché, c'est aussi pour aller trouver le consommateur, avec l'idée aussi que c'est bio, donc il y a un label, etc., ce qui permet là aussi de renforcer peut-être la confiance. Mais cette défiance, elle existe. Et donc là, on mène aussi avec des collègues des recherches sur suspicion, scepticisme aussi du consommateur et défiance par rapport à la distribution. Et c'est aussi tout l'enjeu de la distribution. Si quoi qu'ils disent, aussi, de toute façon, sont toujours catalogués comme des gens qui finalement ne disent pas la vérité.
Pierre-Marie Décoré.
Vous parlez de défiance à l'égard de la grande distribution traditionnelle. Cette défiance, elle existe aussi à l'égard des géants du e-commerce. Je pense notamment à Amazon. Il y a quatre grandes critiques qui surgissent avec ces acteurs. Une critique d'abord économique. Ils sont accusés de faire disparaître l'emploi physique. Et s'ils en créent, ils créent un emploi assez polarisé entre des jobs mal payés dans des entrepôts et des jobs très bien payés de développeurs ou en lien avec l'informatique. Il y a une critique sociale parce que les conditions de travail dans ces entreprises du e-commerce ne sont pas forcément...
Sont régulièrement épinglées.
Régulièrement épinglées, c'est ça. Il y a une critique également environnementale, c'est le bilan carbone du e-commerce. Je prends un exemple, Alibaba, le 11 novembre 2018... a fêté la journée des célibataires. C'est une grande manifestation de frénésie de consommation en Chine. 30 milliards de dollars de transactions en 24 heures. 30 milliards. Cet événement génère sur un week-end plus de 130 000 tonnes de déchets, de carton, qui n'est pas recyclé. Voilà. Vous avez un vrai bilan carbone du e-commerce.
Qu'on soit du côté des distributeurs traditionnels et du côté des distributeurs numériques, de toute façon, c'est l'idée de pousser à la consommation qui n'a plus la cote.
Oui, cette surconsommation, j'allais dire ce modèle de la société de consommation du toujours plus heurte peut-être, parce qu'il est hérité du modèle des Trente Glorieuses, heurte le souci croissant de consommation responsable. Et j'ajouterai une dernière critique qui concerne là les GAFAM, qui ne concerne pas forcément la distribution traditionnelle. C'est une critique politique qui a trait au comportement de ces acteurs, que ce soit en matière de consentement à l'impôt ou de relations avec les pouvoirs publics. Amazon, il faut le rappeler, est en guerre ouverte avec l'administration Trump aux États-Unis.
Et alors justement, face à cette défiance croissante, comment les distributeurs cherchent-ils à changer leur image de marque? Eh bien, par exemple, avec ce type de publicité.
Qu'est-ce qui te définit? Est-ce que c'est ton goût, ta texture, ce dont tu es fait? Potassium, fer, calcium, vitamine A, B, C et même K, tu as tout ça. Il ne te manque rien de ce que les autres fruits et légumes ont. Tu peux potentiellement être tout ce que tu veux. Jus, soupe, purée, il suffit de le vouloir. Qui a dit que tu ne pouvais pas être vendu dans les supermarchés? Qui? Maintenant, tu dois commencer à croire en toi parce que sinon, personne d'autre le fera. Quand tu seras dans une cagette au supermarché, je veux que tu te redresses et que tu te sentes fier de qui tu es. Parce qu'il n'y a rien de mal à être moche.
Les fruits et légumes moches, une belle idée contre le gaspillage.
Voilà, une campagne d'un grand distributeur pour lutter donc contre le gaspillage. Les grandes surfaces, leurs laboratoires cherchent plus que jamais à s'afficher comme plus vertes.
Alors, je pense qu'en fait, déjà, il y a différentes évolutions. C'est-à-dire, la première évolution, c'est on rationalise. C'est pour ça qu'on voit la restructuration en disant, on va proposer des magasins qui soient plus proches des clients, qui soient à côté, et avec l'idée aussi, avec des marques de distributeurs, etc. Donc, moins de produits. Donc, ça aussi, c'est une première chose. Deuxième chose, on va proposer aussi des enseignes qui proposent des produits bio et on communique sur un certain nombre de choses en essayant aussi de changer les consommateurs. Là, c'était la campagne sur les légumes moches. Mais on voit aussi Carrefour qui, par exemple, référence, qui est le patron des marques aussi un petit peu plus responsables. Donc, en fait, l'idée, c'est de démontrer par la preuve, c'est-à-dire dans les pratiques, c'est-à-dire plus que de communiquer. Ça, c'est la première des choses. Et puis, il y a une troisième évolution qui consiste aussi à aller sur, tout à l'heure, ce qu'on n'a pas forcément, enfin, on en a parlé, c'est la notion d'expérience client. Et la notion d'expérience client est importante. C'est-à-dire que l'hypermarché, il va devoir se réinventer en disant, si je vais dans un hypermarché, c'est par exemple, comme certains Carrefour, etc. Bien, j'ai de la cuisine, donc j'ai la personne qui prépare devant moi. J'ai un caviste, quelqu'un qui va me renseigner. C'est différents commerces là aussi, vraiment sous le même toit. Et c'est le fait de réinventer pour justement ce qu'on a dit dès le départ, c'est la notion de réenchanter. Donc en fait, je pense qu'il y a ces trois axes à la notion de consommation responsable, consommation de proximité et les grands projets centres commerciaux avec l'idée aussi de service client et réenchantement.
Et alors justement, quelle est l'efficacité de ces différentes mesures Est-ce que cela a permis de relancer quelque peu la fréquentation des grandes surfaces ou est-ce qu'elles sont surtout accusées de faire du greenwashing?
Je pense que là, on n'est pas forcément dans le greenwashing. On voit bien que Leclerc, qui à un moment donné a été précurseur dans tout ce qui était sac de caisse, il s'est battu aussi sur un certain nombre de choses, a une image là aussi très pro-environnement. Ce qu'il faut en fait comprendre, c'est qu'on accuse toutes les entreprises qui parlent un peu trop de développement durable de faire du greenwashing. Mais la question aussi, ce que peuvent faire les distributeurs, et vous le voyez là aussi dans cette campagne légumes moches, c'est de prouver ou de démontrer. Après, il faut aussi tout à l'heure, enfin j'avais déjà parlé un peu de ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire que le consommateur aussi au niveau du paradoxe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le consommateur, il va essayer de se démontrer que le produit qu'il achète, bah, c'est quand même bien. Par exemple, c'est « Ah bah non, mais je peux pas acheter de produit responsable parce qu'il n'en existe pas. Donc c'est un peu compliqué pour moi de l'acheter. » Donc c'est là aussi ce qu'on appelait tout à l'heure le paradoxe du consommateur. Donc ce paradoxe fait qu'à un moment donné, il va aussi acheter des choses, il voit effectivement qu'il y a des pratiques qui sont faites, et en même temps, quelque part, il se pose des questions sur la crédibilité du message. Et le fait en disant « Est-ce qu'ils sont forcément, ils ont raison de le faire. Et pourtant, il y a quand même ce développement des choses, le fait aussi les hypermarchés bio, etc. C'est une réalité. Et avec aussi, on voit aussi l'apparition de nouveaux concepts, par exemple tels que Grand Frais. Grand Frais, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui a lancé ça en 1992, donc finalement c'est un indépendant. Et l'idée, c'est vous avez 5 commerces sous le même toit, donc l'épicier, etc. On revient un petit peu sur le marché traditionnel. Donc c'est vrai que le paradoxe du consommateur, c'est aussi de dire, je veux du verre, D'accord, je veux des tas de choses, mais en même temps, je veux quand même, je vais chez Amazon, etc., parce que ça va plus vite.
Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Pour vous, Laure Lavorata, pour conclure, quel est selon vous l'avenir des grandes surfaces, à l'heure où on le disait, la surconsommation est de moins en moins bien perçue par le grand public? Est-ce qu'il faut s'attendre, par exemple, à des fusions entre grands distributeurs? La possibilité d'une fusion entre Carrefour et Casino avait fait grand bruit l'an dernier.
Alors, c'est pas tant les fusions, c'est aussi le fait d'à un moment donné, ils ont quand même créé des centrales d'achat communes pour aussi essayer de rationaliser au niveau des prix. Tout à l'heure, en début d'émission, vous parliez de crise. Je pense qu'en fait, ce qui est plus intéressant, c'est de parler de mutation. Mutation, ça veut dire qu'on se transforme. Et là aussi, c'est pas la même chose que crise, où il y a des gens aussi qui vont disparaître, mais la mutation veut dire qu'on va se transformer. Et donc, les alliances, après, à la difficulté, c'est aussi le poids, donc au niveau de la répression des fraudes, etc., des ententes aussi au niveau de l'Europe. Mais par contre, là aussi, on voit bien au niveau politique, la notion de vague verte, on voit bien tout ce qui est mouvement écologique, vont faire qu'à un moment donné, les consommateurs, ils attendent autre chose. Et que les distributeurs, ils doivent se réinventer, muter pour aller aussi vers des choses complètement différentes.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui de la route de l'Arctique qui attise de plus en plus de convoitises avec l'accélération de la fonte des glaces.
Absolument, un espace particulièrement stratégique puisque le réchauffement climatique, deux fois plus rapide au pôle, y ouvre de nouvelles voies pour la navigation. Un passage désormais praticable tout au long de l'année et qui permet de réduire considérablement les trajets. Près de 20 jours de moins pour les navires reliant l'Asie à l'Europe, obligés jusqu'à présent de passer par le canal de Panama. Une opportunité qui n'a bien entendu pas échappé aux puissances de la région, à commencer par la Chine qui a désigné ses routes polaires de la soie comme une de ses priorités dans le cadre de sa conquête économique et commerciale. Sans être un état du cercle polaire, la Chine s'investit donc chaque jour un peu plus dans la région. Elle a ainsi depuis 2013 le statut d'état observateur au Conseil de l'Arctique et s'est rapprochée ces derniers temps de son voisin russe afin de s'associer à l'exploitation imminente de la banquise.
Il faut dire que la Russie s'est déjà largement investie dans cette zone, revendiquant le statut de principale puissance polaire.
Exactement. Vladimir Poutine a ainsi annoncé sa volonté de multiplier par 4 le trafic de fret transitant par la voie polaire d'ici à 2025. Et lors du forum de l'Arctique qui se tenait il y a quelques semaines à Saint-Pétersbourg, le président Poutine a rappelé que l'Arctique concentrait déjà 10% des investissements de la fédération et a réaffirmé sa volonté d'amplifier encore la présence de son pays dans la région. Une volonté qui s'est traduite très concrètement puisque depuis 2013, la Russie a construit ou rénové 7 bases militaires le long de la route du Nord et déployé des lanceurs de missiles, radars et autres installations militaire dans toute la zone. Mais au-delà de ces enjeux stratégiques et commerciaux, cette région du Grand Nord aiguise surtout les appétits car elle regorge d'hydrocarbures en quantité insondable. L'Arctique pourrait ainsi abriter près d'un tiers des réserves mondiales de gaz et près de 15% du pétrole planétaire.
La fonte des glaces marque donc le départ d'une nouvelle ruée vers l'or noir.
Exactement, comme explique Mika Mered, spécialiste des enjeux géopolitiques de la région, le système russe est fondé sur sa rente pétrolière. Or, les ressources d'hydrocarbures exploitées dans le sud-ouest de son territoire depuis l'ère soviétique se tarissent petit à petit. Se tourner vers l'Arctique est donc pour la Russie une question de survie. Mais bien sûr, les autres puissances de la région ne l'entendent pas de cette oreille, à commencer par les États-Unis qui lorgnent également vers le nord grâce à leur implantation en Alaska. Les velléités russes en Arctique ont même poussé Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, à déclarer il y a quelques jours « Ce n'est pas parce que l'Arctique est un monde sauvage que la loi du plus fort doit y régner ».
Une déclaration en forme de mise en garde qui ne présage rien de bon quant à l'évolution des relations entre les géants du Grand Nord.
Non, mais surtout une surenchère verbale qui traduit la volonté inébranlable d'exploiter les ressources coûte que coûte et jusqu'à la dernière goutte. Alors même que c'est la consommation d'énergie carbonée qui est la cause du réchauffement climatique qui libère à son tour de nouvelles réserves d'hydrocarbures, on semble pris de vertige face au cynisme et à la conséquence de l'homme qui semble incapable de fixer des limites à une démesure qui risque pourtant de lui être fatale.
On se quitte avec la banquise du groupe By Horus. Merci beaucoup Laure Lavorata et Pierre-Marie Décoré de nous avoir aidés à décrypter la crise ou la mutation que traverse aujourd'hui la grande distribution. Demain, on se demandera comment nourrir l'humanité en compagnie de Jacques Attali et Bruno Parmentier. D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.